Le journal, Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. La trêve tient en Israël et à Gaza. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'aide humanitaire s'organise, les habitants constatent les dégâts. Gaza, dans une étrange ambiance entre retour à la vie normale et deuil, nous serons à Gaza dans un instant. Un variant très rare du coronavirus détecté dans un quartier de Bordeaux, ce virus mutant aurait touché une cinquantaine de personnes. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine demande aux habitants du quartier de Bacalan de se faire vacciner. Le grand rendez-vous en sport aujourd'hui avec la finale de la Coupe d'Europe de rugby entre deux clubs français, Toulouse, La Rochelle. À Toulouse, les terrasses restent ouvertes jusqu'à 21h. À La Rochelle, terrasses ouvertes également, mais retransmission du match interdite. Dans ce journal également, les journées nationales de la Croix-Rouge, notre rendez-vous avec Thomas Pesquet et son journal de bord dans Mission Alpha. La prescription culturelle du week-end avec le premier roman d'Isabelle Boissard. La météo mitigée pour cet après-midi et pour demain, Jean-Michel Golinski, à la fin de cette édition, à 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, des révélations sur Delubac, un nom qui ne vous dit peut-être rien. C'est une petite banque dont le siège se trouve dans le village du Chélard, en Ardèche, mais vous verrez qu'elle est citée dans plusieurs affaires qui impliquaient le sommet de l'État français il y a une dizaine d'années.
Jacques Monin, secret d'info, à 13h20.
France Inter.
Trêve fragile, trêve amère en Israël et à Gaza. Après 11 jours de guerre entre Israël et le Hamas ce matin, le cessez-le-feu est respecté et à Gaza, avec l'arrêt des bombardements, les habitants sortent pour se ravitailler et constater les dégâts des immeubles aplatis, des habitations dévastées. Zaineb, habitante de Gaza, a connu plusieurs bombardements intensifs en 2008, 2012 et 2014. Zaineb, mère de deux enfants, avec notre envoyé spécial à Gaza, Frédéric Mettezo.
Gaza a été endommagée, terriblement endommagée. Gaza a été détruite plusieurs fois et cette fois encore, elle a été massivement détruite. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour redevenir comme c'était avant, mais je crois que ce n'est plus le Gaza que nous avons connu. C'est un nouveau Gaza maintenant. Si tu vas dans la rue, tu verras que tout a été visé, bombardé, brisé, détérioré. Ce n'est pas Gaza, c'est plus violent que lors des trois autres guerres.
Vous n'aviez jamais vu ça avant.
On avait vu, mais pas avec cette intensité. C'était très offensif cette fois-ci. Avant, on pouvait reprendre notre souffle dans les autres guerres, mais cette fois, il n'y a pas eu de répit. Pas de répit du tout. C'était beaucoup plus qu'on ne pouvait tolérer.
Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Joe Biden, le président américain, a annoncé hier soir qu'il voulait mettre en place une aide financière majeure pour reconstruire Gaza. Et ce matin, alors que l'on recherche toujours des survivants dans les décombres, un semblant de retour à la normale s'amorce dans la bande de Gaza, dans une bien étrange ambiance, Frédéric, entre retour à la vie normale et deuil.
Oui, aujourd'hui à Gaza, on a sorti les balais. Après une journée de soulagement et de détente, hier, jour de week-end, les Gazaouis nettoient leur ville. Ils balaient les morceaux de verre, ils déblaient les décombres avec tous les moyens de transport possibles. Voitures, camions, petites carrioles tirées par des ânes. Toutes les boutiques qui le peuvent ont rouvert. Les Gazaouis sont partagés entre deuil, envie de calme et envie de revanche face à ces destructions. Les plus anciens disent qu'ils n'avaient jamais connu de tels bombardements. En l'air, on entend tourner en permanence, 24 heures sur 24, les drones israéliens de surveillance.
Frédéric, on est encore loin d'une paix négociée et de son côté, le Hamas estime avoir remporté une victoire.
Oui, et cet après-midi d'ailleurs, le Hamas prépare un défilé militaire, un grand défilé avec des roquettes, des jeeps, des camions. Ça va se passer au centre de Gazaville vers 16h cet après-midi. Le mouvement islamiste classé terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne a montré combien son arsenal était plus étoffé et plus puissant avec ses milliers de roquettes tirées en 11 jours jusqu'à Tel Aviv en Israël. Cela fait la fierté des Gazaouis avec qui j'ai pu parler, mais ils sont aussi déçus. Ils sont aussi parfois critiques envers le Hamas. Ils estiment que le Hamas a mal géré la pandémie de corona. On en parle moins, mais le corona continue ici. Il y a beaucoup de foyers infectieux. Les habitants de Gaza trouvent que le couvre-feu et les confinements très stricts, trop stricts, ont encore aggravé une situation économique qui était déjà catastrophique.
Frédéric Mettezo, en direct de Gaza, merci. En France, la lutte maintenant contre l'épidémie de coronavirus. Le tiers de la population a reçu au moins une une première dose de vaccin, soit plus de 22 500 000 personnes. Le nombre de malades Covid baisse toujours à l'hôpital et les Français sont de nouveau optimistes en ce premier week-end de déconfinement pour la Pentecôte. Selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, 6 Français interrogés sur 10 estiment que la France va réussir son déconfinement après 7 mois de liberté restreinte. Les autorités sanitaires rappellent qu'il faut rester prudent, la menace des variants est toujours présente et par exemple à Bordeaux, une cinquantaine de personnes ont été testées positives à un variant très rare, une nouvelle mutation du variant anglais. Ce week-end, campagne de dépistage massif et de vaccination dans le quartier de Bacalan à Bordeaux. Ce nouveau variant semble plus contagieux, Sonia Grobry.
Une opération de dépistage massive est organisée aujourd'hui dans le quartier Bacalan. L'ARS, l'Agence régionale de santé et la mairie de Bordeaux ont ouvert un centre à la hâte. Les habitants sont vivement invités à se faire tester après la découverte de cette mutation du variant anglais. Patrick Dehal, conseiller médical à l'ARS.
C'est un variant qui était déjà connu. Il y a eu quelques cas sur le plan du territoire national. En revanche, c'est la première fois qu'il y a un cluster avec ce type de variant. Alors, est-ce qu'il est plus contagieux? En tout cas, il est suspect d'être effectivement plus transmissible. Alors, pas forcément plus grave. D'ailleurs, les 46 cas qui ont été identifiés, ces 46 cas vont bien, ils sont à domicile, il n'y a aucun hospitalisé, aucune forme grave. Il n'y a pas non plus parmi ces cas-là de personnes qui étaient préalablement vaccinées. Donc, on n'a pas trop de doutes sur le fait que les vaccins, notamment à ARN messager, sont efficaces. On n'a pas d'argument pour dire qu'il est plus grave, mais il est peut-être plus transmissible, effectivement.
L'Agence régionale de santé a donc demandé d'anticiper la vaccination des plus de 18 ans sans condition pour les habitants du quartier.
Au niveau européen, face à cette menace des variants, l'Allemagne a pris deux mesures hier soir. La première concerne la Grande-Bretagne, classée comme zone de mutation des variants, mesure effective à partir de demain soir. La seconde concerne la France, retirée de la liste des pays à haut risque pour les autorités sanitaires allemandes. La France est rétrogradée en simple zone à risque, mesure effective dès demain également, et qui va soulager les travailleurs frontaliers. Sur place à Bonn, Hugo Flotatalon.
Oui, parce que la quarantaine de 10 jours obligatoire à l'arrivée en Allemagne disparaît, plus besoin de s'isoler en arrivant sur place. Seule la présentation d'un test négatif est désormais nécessaire, un test antigénique par exemple. Pour les personnes vaccinées ou les séjours de moins de 24 heures, les tests ne sont même plus obligatoires. Ainsi, pour les habitants du Grand Est par exemple, ça veut dire qu'aller faire ses courses de l'autre côté de la frontière sera à nouveau possible. Terminer aussi les problèmes de tests ou de contrôle pour les frontaliers. Enfin, cette décision est une bonne nouvelle également pour la saison touristique à venir. Les Allemands peuvent désormais se rendre en France sans risque de devoir s'isoler au retour. Ce n'est plus le cas en revanche pour la Grande-Bretagne. L'Allemagne vient de classer le pays en zone de mutation des variants, le plus haut niveau de danger à cause du variant indien. Ça veut dire quarantaine obligatoire de 2 semaines pour ceux qui arrivent en Allemagne depuis la Grande-Bretagne. Les compagnies aériennes de bus ou les trains n'ont dès demain même plus le droit de transporter des voyageurs de la Grande-Bretagne vers l'Allemagne s'ils ne sont pas allemands ou domiciliés dans le pays. Bonn, Hugo Flotatalon, France Inter.
Et concernant les discothèques à l'approche des beaux jours et de l'été, déception pour les patrons de boîtes de nuit. Le Conseil d'État refuse la réouverture des discothèques avant le 30 juin. Certains responsables d'établissements dénoncent une injustice. D'autres, comme Patrick Malves, notent des points positifs dans cette décision du Conseil d'État dont ils espèrent se servir pour poursuivre le combat de la réouverture. Patrick Malves, président du syndicat national des discothèques avec Sonia Princé.
Certes, le Conseil d'État rejette notre requête, mais pose des éléments très intéressants. Le premier élément, c'est qu'il reconnaît qu'il y a une atteinte grave à la liberté d'entreprendre en maintenant fermée et prolongée notre fermeture. L'autre élément qui est intéressant, c'est ce qui concerne les autres lieux, c'est-à-dire les bars à ambiance musicale, c'est-à-dire les salles de concert, les fêtes, les mariages, etc. Alors là, c'est très intéressant parce que le Conseil d'État dit clairement que le gouvernement devra faire en sorte d'avoir une appréciation cohérente des risques relatifs à ces activités. En clair, ça veut dire que c'est l'activité qui comptera, donc s'il y a de la danse, s'il y a de la discothèque, etc., ou assimilée, il faudra que le gouvernement fasse preuve de cohérence. C'est ce que nous soutenions. Il y a activité identique et risques similaires, il faut un traitement égal. Donc là, nous aurons la matière pour aller devant le juge.
Patrick Malves du syndicat national des discothèques et ce matin dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter, Alain Grisé, ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, a indiqué qu'un plan d'accompagnement spécifique pour les discothèques est en préparation. Début aujourd'hui des journées nationales de la Croix-Rouge jusqu'au 30 mai. Comme chaque année, les 60 000 bénévoles de la Croix-Rouge vont collecter des dons, aller à la rencontre du public. À cause de la pandémie, de plus en plus de Français ont sombré dans la précarité. Et cette opération est l'occasion non seulement de réunir des fonds, mais aussi de grossir les rangs des bénévoles. Jean-Christophe Combes, directeur général de la Croix-Rouge avec Océane Théard.
On agit aujourd'hui sur tous les fronts, sur le front sanitaire, avec la vaccination, le dépistage, l'isolement, sur le front social aussi, auprès des personnes démunies, des personnes à la rue. Et pendant cette quête, en fait, on va donner de la visibilité à nos activités. On attend évidemment un soutien financier de la part des Français. On attend aussi, et on espère, un engagement, comme ils l'ont démontré pendant toute cette année, particulièrement pendant cette période de crise. C'est-à-dire que c'est aussi l'occasion pour nous d'aller recruter dans la rue de nouveaux bénévoles qui vont venir renforcer nos équipes et nous permettre de faire de nouvelles actions. Aujourd'hui, notre société, elle a besoin d'un engagement fort pour passer cette crise et ces moments difficiles.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'événement en sport aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe d'Europe de rugby avec deux clubs français, Toulouse face à La Rochelle, coup d'envoi à Twickenham à 17h45. Toulouse est à la recherche d'un cinquième titre européen. La Rochelle est en quête de son premier succès européen en direct de Londres. On retrouve notre envoyé spécial qui a beaucoup de chance, Fanny Lechevestrier. Mmh. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Et un formidable joueur va disputer ce soir sa deuxième finale de Coupe d'Europe avec Toulouse, l'arrière Maxime Médard.
Oui, c'est le seul de l'équipe de Toulouse à avoir déjà connu les joies d'un trophée européen, deux titres de champion d'Europe même à son actif. Le dernier remonte à il y a déjà 11 ans, dernier Mohican encore donc sur le terrain de la victoire du Stade Toulousain en 2010 face à Biarritz à 34 ans. Maxime Médard, c'est un peu l'histoire dans l'histoire, l'un des symboles du club dont il revendique souvent l'identité familiale. Lui qui en est à sa 17e saison professionnelle avec les Rouges et Noirs et que les jeunes surnomment Tonton Max, un international qui aurait pu quitter Toulouse durant les années creuses, mais qui au final est un trait d'union entre les générations, entre par exemple Emilien Tamac avec qui il a débuté et Romain Tamac, le fils avec lequel il peut cet après-midi décrocher une cinquième étoile. Maxime Médard, dont Hugo Mola, son entraîneur, disait de lui cette semaine, c'est peut-être le meilleur joueur que j'aurais entraîné. Une victoire aujourd'hui et il serait même capable de remettre les rouflaquettes à la mode en France, Frédéric.
Fanny Lechevestrier, merci et bon match. Notre rendez-vous du samedi 13h avec Mission Alpha, quatrième semaine pour Thomas Pesquet, à bord de la Station Spatiale Internationale. Et comme chaque samedi, il vous a livré son carnet de bord, Sophie Becherel.
Eh bien, cette semaine, Thomas Pesquet a réalisé l'expérience Dreams. Elle consiste à porter un bandeau de sommeil pendant la nuit afin d'enregistrer l'activité cérébrale, les cycles de sommeil et les éventuels mouvements de l'astronaute. Lui dit avoir un bon sommeil sans interruption, ce qui n'est pas le cas de la majorité des équipages. Et ça s'en ressent parfois dans leur travail. Heureusement, il y a des somnifères dans l'armoire à pharmacie, une armoire bien remplie pour parer à beaucoup d'urgences, depuis l'arrêt cardiaque jusqu'à l'arrachage de dents, en passant par le fameux mal de l'espace. On en parle peu, mais il touche quasiment tous les astronautes à des degrés divers. N'est-ce pas, docteur Pesquet ?
Oui, le mal de l'espace, ça existe. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des gens qui sont très très forts sur le tabouret tournant, la centrifugeuse au sol et qui sont très malades dans l'espace. Il y a des gens, c'est le contraire. Donc, moi, j'ai de la chance, je suis pas très malade. En arrivant dans l'espace, je suis très bien, aucun problème. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de s'adapter un petit peu. C'est comme le mal de mer, quoi. Il y a des gens qui l'ont assez fortement et qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Les symptômes, c'est des vertiges, nausées. On peut être un peu fatigué. Les gens un peu mal à la tête ou les fluides qui se répartissent différemment dans le corps, ça fait qu'on est un peu congestionné en permanence. Mais ça, c'est les petits bobos de la vie quotidienne, on va dire. Ça se règle très bien. Et puis, on a une pharmacie très complète. On a des docteurs qui nous suivent au sol. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils s'occupent de nous.
Les études ont montré que lors des missions longues, les astronautes prenaient en moyenne 2 cm, certains jusqu'à 10 cm. En tout cas, ça provoque des maux de dos.
C'est surtout les gens qui sont déjà assez grands et un peu maigres, j'ai l'impression qu'ils s'allongent encore plus. Moi, j'ai pas eu trop mal au dos. Parfois, c'est juste difficile de s'endormir quand on flotte. Et souvent, les gens se ramènent un peu les genoux en boule sous le menton. Et ça soulage un peu le bas du dos et la colonne vertébrale. Quand ça m'arrive, je me coince les genoux sous mon ordinateur. On a une espèce de petit stand avec l'ordinateur dans la couchette. Entre la porte et l'ordinateur, là, c'est la bonne dimension. Et puis, ça me permet d'étirer un peu le bas du dos. Et puis voilà. Mais sinon, quand une fois, on a des médicaments, on peut faire du stretching, on a des kinés qui nous donnent des techniques pour s'étirer en impesanteur, donc on est un peu créatif.
Est-ce qu'il vous arrive de vous blesser, de vous couper? Et dans ce cas, quel comportement a le sang?
Il y a des gens qui sont blessés, alors pas hyper sérieusement, mais si quand même, il y avait eu un touriste spatial qui s'était... En fait, le problème, c'est les sas, enfin les passages d'un module à l'autre. Souvent, ça se rétrécit un peu. Il y a un sas métallique, évidemment, parce qu'il faut que ce soit solide. Et donc, quand on arrive en contrôlant pas très bien son vol et qu'on va se taper la tête dedans, ça peut faire un peu mal. Et il y avait une coupure quand même assez sérieuse, hein, avec des points de suture sur le crâne. Donc oui, le sang coule, mais ça va faire une boule, en fait. Ça fait une boule qui augmente et qui coule un peu sur les bords, en fait, qui va avoir tendance à s'étaler un peu sur le reste de la terre, de la tête, pardon. Voilà, on est entraîné pour faire des points de suture. On a toute une trousse de pharmacie d'urgence, encore une fois, avec adrénaline, avec défibrillateur, avec absolument tout ce qu'il faut.
J'ai vu dans l'inventaire de la NASA qu'il y avait de la colle pour recoller des couronnes. Mais ça veut dire que vous êtes aussi dentiste ?
Oui, alors on n'est pas dentiste, j'espère que j'aurai pas à le faire, mais on s'entraîne aussi, bah évidemment. J'ai vu où faire une injection dans la gencive pour anesthésier, ensuite arracher une dent, faire un 8 avec la pince, là, on a toutes les techniques. Mais c'est arrivé, hein, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, que c'était un cosmonaute russe qui a dû se faire arracher une dent, ou que la dent est plus ou moins tombée tout seul, ou s'est cassée, et du coup, il y en a aussi une petite patte, une espèce de patte, les dentistes qui nous écoutent m'en voudront de pas savoir, mais une patte de dentiste, appelons ça comme ça, qui permet en fait de boucher un trou, hein, dans la gencive, ou de plus ou moins reconstituer une dent, ça durcit, et puis c'est temporaire évidemment, mais on va comme ça jusqu'à la fin de la mission et puis ensuite on règle ça au sol.
Vous avez régulièrement des rendez-vous avec le médecin de l'Agence spatiale européenne au sol, mais dans l'espace, qui fait le docteur ?
Il y a toujours un ou deux CMO Crew Medical Officer, donc c'est celui ou celle qui est formé un petit peu plus. Alors quand on a un médecin astronaute, bah évidemment c'est lui qui s'y colle, ça c'est certain. Quand il n'y en a pas, il faut se dévouer en fonction des goûts et des talents de chacun. Moi, j'aime assez les activités médicales, en fait. Je me suis pas mal éclaté, c'est un bien grand mot, mais on fait des stages en hôpital, on fait des intraveineuses, on fait des piqûres, on fait un peu des points de suture bénins, on va dire, pas des trucs trop sérieux, mais quand même. Je crois qu'on est trois dans la mission à être qualifiés, et encore une fois, on espère que ça ne va pas arriver.
Thomas Pesquet avec Sophie Bécherel, à retrouver sur franceinter.fr et bien sûr le podcast Mission Alpha, semaine 4. Allô, docteur Pesquet. La prescription culturelle du week-end, il est question de la vie dorée des expatriés, de la honte de son milieu social et d'un atelier d'écriture. Comment trouver sa place quand on a le sentiment de ne pas avoir les bons codes? Thème du premier roman d'Isabelle Boissard, La fille que ma mère imaginait, Ilana Mor-Youssef.
Et toi, ton mari, il fait quoi? À chaque déménagement dans un nouveau pays, c'est la même question. Et à chaque fois, pour la narratrice, le sentiment décuplé de ne pas être à sa place. C'est à Stockholm, où elle vit, que nous avons appelé Isabelle Boissard.
L'idée de commencer à écrire, ça vient de mon incapacité à trouver ma vie d'expatriation géniale alors que les autres la vivaient bien. Et je crois que c'était partir du constat de se sentir moins qu'une autre. Moi, ma mère m'emmenait pas au théâtre, mon père m'a pas fait découvrir les classiques du cinéma italien. Alors quand on est transfuge, on se pose vraiment la question de moi, je peux prétendre à quoi en tant que fille de concierge.
La fille que ma mère imaginait se présente sous la forme d'un faux journal intime. Les premières pages évoquent une Bridget Jones qui se serait enfin procurée mari et enfant. Mais très vite, on se rend compte que l'humour sert à tenir l'émotion à distance.
C'est aussi pour ça, je crois, que j'ai souhaité écrire. C'est casser cette transmission de la honte, parce que ma mère avait elle-même honte de son milieu social. Et avoir honte de son milieu social, ce n'est pas avoir honte de ses parents. Je pense que la honte, à un moment, elle vient du regard aussi qu'on nous porte.
À ces regards convenus, Isabelle Boissard oppose son regard décalé. Que sa narratrice soit chez le coiffeur ou à l'hôpital, auprès de sa mère, aucun cliché ne résiste à son sens de la formule.
La fille que ma mère imaginait, d'Isabelle Boissard, aux éditions Les Avrils. La mort de Robert Marchand, le plus vieux sportif et cycliste du monde, à l'âge de 109 ans. Robert Marchand était un champion de vélo, record de l'heure des plus de 100 ans, champion du monde cycliste sur route des plus de 105 ans. Robert Marchand s'était confié en janvier 2004 sur France Info après l'un de ses exploits à vélo. Il avait 102 ans.
Je veux pas qu'on me prenne pour un champion, hein. Je ne suis pas un champion, déjà pas quand. Mais moi, je fais ça, n'est-ce pas, exclusivement pour prouver qu'à 100 ans, on peut encore faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Au lieu de rester assis dans un fauteuil à jouer aux cartes, n'est-ce pas, eh bien, faites du vélo, exclusivement, ou faites de la marche, ou faites de... Hein, mais faites quelque chose, n'est-ce pas.
Voilà Robert Marchand qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 109 ans. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Trois types de temps différents cet après-midi avec un ciel voilé mais sec des Alpes du Sud au pourtour méditerranéen, un temps plus mitigé avec des ondées entre la Loire, le Sud-Ouest, le Centre, le Massif Central et des Vosges, Haute-Savoie, avec toujours un risque d'avalanche marqué pour le massif alpin. C'est en fait du nord de la Loire aux frontières du Benelux que le temps sera le plus menaçant avec des averses, de l'orage et un vent d'ouest très turbulent. Pour trouver des températures de 20 à 24 degrés, il faudra se diriger vers la Méditerranée. Sur le reste du pays, la moyenne sera de 16 degrés avec des valeurs proches de 14 près de la Manche et de 18 en Rhône-Alpes et le long de la Garonne. Demain et lundi, les températures vont stationner à peu près au même niveau avec une amélioration demain et simplement quelques averses près de la Manche, mais amélioration temporaire car dès la soirée, une zone de pluie et de vent fort va aborder la pointe ouest et traverser lundi une grande partie du pays.
Jean-Michel Golinski de Météo France.